Parce que l'humilité, c'est précisément ça, voir aussi l'autre comme un don. Je reçois mon conjoint, mon épouse, mon époux, de la main de Dieu. Et je l'accueille tel qu'il est, dans son humanité. Comme Jésus aussi nous accueillera dans notre humanité lorsque nous irons dans le face-à-face, dans la vie éternelle. Alors bien sûr que l'humilité consiste à accueillir l'autre dans son humanité, mais en même temps, c'est se rappeler que nous sommes au fond dépendants de Dieu, mais de cette dépendance d'amour. J'aime bien cette phrase de Jésus en Jean 15, 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais on voit au fond que il y a en nous quelque chose, une forme d'orgueil, parce que qui dit humilité dit le contraire, dit aussi l'orgueil, c'est-à-dire l'orgueil ou la toute-puissance. C'est important aussi d'employer un autre mot, la toute-puissance. Quelque chose en nous qui s'oppose à Dieu. Alors on se dit, mais comment ça, s'opposer à Dieu? Mais qui sommes-nous pour nous opposer à Dieu? Si nous sommes là, c'est que, je vais dire, on est plutôt sympathisant au club, c'est-à-dire qu'on est plutôt favorable à la vie de foi, on est plutôt dans une dimension de vie de prière, etc. Bon, et non, on va pas s'opposer à Dieu, mais non, il y a en nous quelque chose, il y a des attitudes qui s'opposent à Dieu. Et on en relève trois. Ce qu'on en appelle, et ça vous l'avez peut-être entendu souvent, ce qu'on appelle les trois formes de concupiscence, c'est-à-dire les trois formes d'orgueil. L'orgueil de l'esprit, l'orgueil des richesses, l'orgueil de la chair. Ces trois formes d'orgueil qui, en nous, au fond, sont présentes pour le combat spirituel. Parce que qui dit rentrer dans l'humilité dit forcément un combat spirituel, ce n'est pas naturel, c'est-à-dire ce n'est pas inné, ce n'est pas spontané d'être humble. C'est accueillir aussi le fait qu'on a quelque chose à combattre, dans lequel ça veut dire aussi découvrir en nous ce qui peut être une source de combat. Découvrir en nous où est-ce que, au fond, il y a quelque chose qui s'oppose à Dieu. Donc, dans ces trois formes d'orgueil, ça vous rappelle évidemment les tentations au désert. Jésus, qui, dans les trois tentations au désert, au fond, c'est ces trois formes d'orgueil-là qui sont mises en avant, dit à ses pains de ses pierres de se transformer en pain, donc tout ce qui est lié au plaisir du corps. Le diable qui montre à Jésus tous les royaumes de la terre, et si tu te prosternes à mes pieds, eh bien ces royaumes seront à toi, c'est l'orgueil des richesses. Et le diable qui emmène Jésus en haut, en esprit, il emmène en haut du temple, jette-toi du haut du temple, car Dieu enverra ses anges pour te protéger, eh bien c'est l'orgueil de l'esprit, se croire supérieur à Dieu lui-même, et tenter Dieu et le mettre à l'épreuve. Et c'est intéressant, dans ces trois formes d'orgueil, je crois que chacun d'entre nous, on a à travailler, on peut les prendre un peu les uns à la suite des autres, parce que et peut-être même mettre un peu le doigt, ces trois formes de toute puissance. Tout d'abord, l'orgueil de l'esprit. L'orgueil de l'esprit, c'est ça se traduit comment? Ce n'est pas incompatible, grâce à Dieu, je veux dire, au contraire. Plus quelqu'un est intelligent, plus il a aussi cet appel à l'humilité. Ce n'est pas un renoncement à l'intelligence, au contraire. Mais cette intelligence, c'est quelque chose d'infini en nous, qui nous fait à l'image, à la ressemblance de Dieu, cette intelligence, elle doit, d'une certaine manière, accueillir sa source, qui est Dieu lui-même. L'orgueil de l'esprit, c'est vouloir soi-même, au fond, dominer. C'est lié au pouvoir, c'est lié à la toute-puissance, c'est lié à la manipulation, c'est lié au fond au désir de faire de l'autre quelqu'un à mon image et à ma ressemblance. Je veux que l'autre pense comme moi, soit comme moi, agisse comme moi. Derrière l'orgueil de l'esprit, il y a le fait de ne pas accepter l'altérité, que l'autre soit autre que moi, dans sa manière de penser, dans sa manière d'agir, dans sa manière de s'organiser, dans son rapport au temps. La question du rapport au temps. Vous voyez, ça, plus ça va, plus je me dis que le rapport au temps est quelque chose à évangéliser. Notre rapport au temps, et en tout cas dans notre société moderne, ce n'est pas un rapport équilibré. On veut faire rentrer dans 24 heures, 48 heures. À pression. On pousse. Faut que ça rentre. Alors, c'est possible. Je veux dire, si on est très bien organisé, si on est très exigeant, etc. Mais vous voyez bien qu'à un moment donné, dès qu'il y a un grain de sable dans l'organisation, forcément il y aura un conflit. Parce qu'on ne laisse pas la place dans ce temps-là à l'imprévu et au contre-temps. Donc, vous voyez, dans l'orgueil de l'esprit, il y a ce rapport au temps qui fait que, on ne veut pas accueillir, par exemple, la patience. On ne veut pas accueillir la lenteur. Il y a peu de temps, j'organisais dans une université une conférence avec Xavier Grenet, qui a été DRH chez Saint-Gobain pendant plusieurs années. Et il disait, moi je veux vraiment être l'apôtre de la lenteur. Il dit, quand on travaille avec la patte humaine, on est dans le coût humain, on n'est pas dans le prêt-à-porter. Et je trouvais ça bon, sa formule, parce que on est dans parfois cette lourdeur humaine. Et justement, Noël, qu'est-ce que c'est si ce n'est le Seigneur lui-même qui vient de prendre cette patte humaine, lui-même qui vient rentrer dans le temps et qui vient rentrer dans cette patience. C'est ça que ça veut dire aussi, l'humilité. Patience. Mais le mot patience, ça vient de patience, c'est-à-dire, ça veut dire souffrir. C'est ce qui fait le mot passion, la passion de Jésus. Donc vous voyez, l'humilité demandera au fond, dans ce rapport au temps, demandera d'accueillir le rythme de l'autre. D'accueillir le rythme de l'autre. Attention à cette course en avant. Attention à ce no limite qui, tôt ou tard, conduit à dominer l'autre. Vous savez, tôt ou tard, on domine l'autre. C'est-à-dire, on le manipule pour qu'il rentre dans notre manière de faire. Et j'aime bien cette phrase de Chiara Lubich. Hein. J'aime bien citer Chiara Lubich, qui est la fondatrice des Focolari, une italienne. Et qui dit, mieux vaut faire quelque chose imparfaitement à deux que parfaitement seul. C'est le genre de phrase qui tue, parce que c'est sûr, si on sait faire les choses, on sait les faire bien, ben je fais seul. Mais, et ce sera mieux fait, hein, mieux vaut être servi par soi-même. Et non, au contraire, acceptons aussi de rentrer dans le lien avec l'autre, même si ce ne sera pas fait de la même manière, peut-être même si ce sera moins bien fait. Hein, vous voyez, le perfectionnisme qui nous tend des pièges. Le perfectionnisme qui nous tend des pièges. Mais acceptons de rentrer dans la communion avec l'autre pour précisément découvrir que j'ai besoin de l'autre, que j'ai besoin. Alors, ce ne sera pas fait, et je pense dans l'éducation avec les enfants, c'est très important. Parce que faire quelque chose avec un enfant, forcément, ce sera plus lent. Forcément, ce ne sera pas aussi bien fait. C'est inévitable. Mais si on ne laisse jamais à l'enfant le moyen de s'exprimer, d'organiser avec l'adulte, il ne sera jamais adulte. Je veux dire, si on le laisse, non, laisse, c'est papa ou maman qui vont faire, c'est sûr que vous savez faire. Mais l'idée, c'est pas que vous savez faire. Est-ce que vous avez aussi donné la possibilité à l'autre de le laisser faire avec son rythme, avec, vous voyez, par exemple, dans l'éducation, de repérer le rythme de chaque enfant. Ce qui veut dire aussi, je pense par rapport au temps, quelle place on laisse à la vie cachée, quelle place on laisse à la vie contemplative. Quand je dis contemplative, par exemple, quelle place on laisse au silence. Est-ce qu'il y a des respirations dans le temps familial? Ou est-ce que c'est toujours au taquet? Oui, mais ouais, mon père, vous êtes dans une abbaye, vous êtes en dehors du monde, vous ne vous rendez pas compte. Vous savez, il y a un choix par rapport à ça. Beaucoup plus qu'on le croit. On a la capacité de choix. Je prenais l'exemple hier de l'alcoolique qui, face à la bouteille, c'est sûr qu'il n'a pas beaucoup de choix, mais dans le chemin qui conduit à son travail, on passe devant le bar ou on n'y passe pas, il y a deux chemins. Souvent, on se crée soi-même des structures, on se met soi-même dans des telles structures qui sont liées au matériel, on va y venir, qu'au fond, ça réagit sur le temps et sur notre manière de le concevoir. Est-ce qu'on a une place pour la vie cachée? Est-ce qu'on a une place pour la vie contemplative, ne serait-ce que dans la nature? Est-ce qu'il y a une forme de paix dans nos familles? Et la paix est liée au temps. Est-ce qu'il y a le temps pour la gratuité? Est-ce qu'on est disponible? Vous voyez, mais ça a à voir avec l'humilité. Parce que ça veut dire forcément se limiter quelque part dans son action, forcément dans ses sorties, dans ses activités. Mais c'est vrai qu'il y a des tas de choses sympas à faire, c'est vrai qu'il y a des tas d'activités. Mais je vois justement, il y a une forme d'éducation qui est pas en place. Je pense, à mon avis, on demande trop des personnes dans des milieux sociaux favorisés. Du coup, il y a l'école pour les enfants, mais en plus, alors il faut bien sûr le piano. Ensuite, il faut le sport. Ensuite, il faut, bien sûr, un peu de peinture, forcément. Le caté. Le gamin, il se retrouve avec un emploi du temps, mais... Parce qu'il faut... Tac. Top. Ça fait des anxieux. Ça fait des angoissés. On fabrique des angoissés. Parce que le fait, justement, que l'enfant... Et où est-ce qu'il prend le modèle, sinon chez les parents, que l'enfant sache aussi qu'il a un temps pour jouer, qu'il a un temps pour... Alors, ça n'empêche pas l'organisation, bien sûr, mais pas vouloir mettre 48 heures dans 24 heures. Pas vouloir qu'il fasse tout. Il faut louper aucune occasion. Ah, il y a un truc là, on y va. Il y a un truc là, on y va. Un truc sympa. Bien sûr qu'il y a des tas de choses sympas au plan culturel, au plan spirituel, il y a des tas de choses sympas. Quelle est la place de la vie cachée, de la vie en famille, de la vie, je veux dire, du temps gratuit, du temps qui n'est pas occupé par rien? Eh bien, on s'apercevra qu'il sera vite occupé par la relation simple, la disponibilité, le jeu, par exemple. Mais vous voyez, derrière ça, il y a un choix. Il y a toujours des choix. Oui, mais on dit oui, mais on est pressé, vous ne vous rendez pas compte, ce que c'est bon. Quand on y pense bien et qu'on est honnête et se met face au Seigneur, à un moment donné, il y a eu un choix. De se mettre peut-être dans un engrenage qui fait qu'aujourd'hui, on n'a plus le choix. Et bien, en remontant, on a eu à un moment donné le choix. On pouvait s'y mettre ou pas s'y mettre. Et derrière ça, vous voyez, on va venir au matériel, alors, l'orgueil des richesses, mais derrière ça, c'est au fond, accueillir le rythme de l'autre, c'est vraiment, je vois, dans la vie communautaire, c'est toujours un défi. Parce qu'en même temps, il y a un bien commun dans la famille, et il faut, si tout le monde, il y en a un qui met 3 heures pour petit déjeuner, et l'autre 10 minutes, évidemment, il y aura un problème quelque part. Bon, il y a quand même à avoir des rythmes un peu communs. Mais en même temps, parce que accueillir le rythme de l'autre, c'est accueillir l'autre, tout simplement. C'est l'accueillir lui ou elle. Et donc ne pas accueillir son rythme et ne pas accueillir son rapport au temps, c'est ne pas l'accueillir. Et Noël, évidemment, c'est Jésus lui-même qui se met dans le temps. C'est-à-dire qu'on médite, on prend 2 minutes conscience, on dit Dieu qui est éternel a accepté de patienter. Là, on est face à un abîme. On est face à... Ça nous donne le vertige. Et nous-mêmes, il faut que ce soit tout de suite... Vous voyez, à force de cliquer, on clique là. Mais avec les personnes, on ne clique pas. Avec les enfants, c'est pas suffit pas de cliquer. Oui, il faut faire attention à des choses intéressantes. Puis bon, mais vous voyez, il faut faire attention, il faut des lieux de gratuité. faut des lieux où justement où on n'est plus rien à faire, faut des lieux où de respiration dans la famille. Sinon, on fait des angoissés qui n'ont jamais assez de temps. Donc, cet orgueil de l'esprit, je pense aussi par rapport à l'orgueil de l'esprit, la place de la prière, qui est aussi un combat spirituel. Là aussi, ce n'est pas spontané. Pour nous non plus, religieux, ce n'est pas spontané la prière. Heureusement que la cloche sonne, sinon je n'irai pas. C'est tas de choses à faire. Vous savez, un curé, il a un emploi du temps plus que de ministre. Ben, c'est aussi un ministre, vous me direz. Mais bon. Mais. Vous voyez, le fait dans la vie religieuse, je pense que c'est une chance de ce fait-là, et en même temps une exigence. Ben, on a la cloche qui sonne, bon. Ben, on nous rappelle, parce qu'en nous, il y a quelque chose qui oublie Dieu. Vous voyez, dans l'athéisme, il y a deux formes d'athéisme. Il y a l'athéisme, on peut dire, idéologique, et il y a l'athéisme pratique. L'athéisme idéologique, c'est Michel Onfray, par exemple, c'est le dernier un peu des Mohicans, parce qu'il n'y en a plus beaucoup. Ben, c'était toute la veine communiste et marxiste. Ça, c'est vrai, ça, c'était là. Maintenant, ça n'est plus d'actualité. Il n'y a presque plus d'athéisme idéologique. Des gens disent oui, pourquoi pas, bon, on vous respecte. Bon, des gens vraiment contre Dieu, très peu. Il y a un athéisme pratique, c'est-à-dire qu'on ne prend plus le temps pour Dieu. Ne plus prendre le temps pour Dieu, c'est se dire que soi-même on est Dieu. C'est se dire qu'il n'y en a pas. Parce que je suis désolé, il n'existe que ce qui n'existe sur l'agenda. Et donc cet athéisme pratique nous guette, nous aussi, parce que ça demande toujours s'arrêter, ça demande toujours de prendre le temps de la prière avec les enfants, en couple, ça demande d'une certaine manière une mort à soi-même. Ça demande que notre origine, elle n'est pas en nous-mêmes, elle est en Dieu. Et que nous sommes qu'un être de désir. Et dans ce désir-là, Dieu vient nous combler, entre autres dans la prière. Et parce qu'on laisse le temps pour Dieu, on laisse le temps pour l'autre. Parce qu'on laisse un espace vide en nous pour Dieu, on laisse un espace aussi pour accueillir la communion. Alors on voit bien que, il faut se le redire, hein, c'est des choses que vous savez par cœur, mais il faut se le redire parce que hein, la mémoire, c'est cette capacité d'oublier, donc du coup... si on n'a pas, on ne refait pas mémoire sans cesse de ça, et on ne se le redit pas, eh bien très vite on peut éliminer Dieu de sa vie. C'est très vite fait. Vous savez, c'est très vite fait. Et imperceptible, mais on ne sera pas contre. On ne sera pas contre la foi, on ne sera pas contre l'Église, on ne sera pas contre ça, non, non. Un athéisme pratique. Ensuite, l'orgueil des richesses. L'orgueil des richesses, ça n'a pas tellement à voir avec la quantité d'argent qu'on peut avoir ou pas, mais est-ce que c'est à voir avec le cœur? Vous vous souvenez de cette parabole où Jésus parle d'une personne qui a une bonne récolte et qui dit, mais voilà, j'ai énormément de récoltes, etc. Je vais construire d'autres greniers encore pour ramasser. Ça vous dit quelque chose, cette parabole? Je vais construire encore d'autres greniers et pour ramasser parce que j'ai une excellente récolte. Et je vais dire à mon âme, paix à toi. C'est ça la question, c'est que je demande à l'avoir l'être. Et ça, c'est pas possible. Je demande à l'avoir de combler mon être. Et Jésus dit dans la parabole, malheureux homme que tu es, fou que tu es, ce soir même, on te réclamera ta vie. Ce soir même, on te réclamera ta vie. Derrière l'accumulation des richesses, l'orgueil des richesses se dit, est-ce que c'est moi qui possède ou est-ce que c'est moi qui suis possédé? Est-ce que c'est je possède l'argent, est-ce que je possède les richesses, ou est-ce que c'est l'argent, les richesses, les biens matériels qui me possèdent? dans ce sens-là, il y a aussi une risque, un risque très fort d'une course en avant. D'une course en avant, et j'aime bien cette petite histoire, je vous la raconte comme ça. L'histoire était une fois comme ça, un Américain qui va en Argentine, où j'ai vécu plusieurs années, et là-bas en Argentine, il y a des gauchos, je ne sais pas si c'est des gauchos, je ne sais pas si c'est des cow-boys un peu argentins, et qui ont un rythme très très lent. C'est-à-dire, c'est le rythme argentin. C'est assez intéressant, le rythme argentin n'est pas du tout le même qu'en France. C'est beaucoup plus lent, du coup il y a beaucoup plus d'espace pour la rencontre, bon, il y a moins de rigueur aussi en termes d'agenda, de rendez-vous, etc. Bon, c'est assez intéressant de voir chaque pays, mais il y a beaucoup plus de bienveillance. Les gens vous trouvent beaucoup de qualité. Mais ils ne sont jamais au rendez-vous. Bon, voilà. Ce que t'as peu quand... Oui, oui, demain je passe, demain, puis on attend, 10 ans après on attend. Donc... Non, mais c'est une autre manière de... Et alors du coup, il y a un gaucho, c'est un cow-boy qui était là, et puis qui regarde ses vaches, et c'est tranquille, et puis il y a un Américain qui dit, mais vous avez 2-3 vaches là? Oui, oui, oui. Mais achetez-en plus. Mais pourquoi faire? Ben, vous aurez tout un troupeau. Mais pourquoi faire? Mais vous ferez ensuite de l'élevage industriel. Mais pourquoi faire? Mais ensuite, ben, vous pourrez fonder à l'extérieur, vous ouvrirez des entreprises. À l'extérieur, il y aura votre nom partout, dans tous les élevages industriels. Mais pourquoi faire? Ben, à la fin de votre vie, vous vous assiérez, et vous contemplerez vos vaches. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je trouvais ça pas mal parce que cette petite histoire de dire... vous voyez, c'est que toujours plus dans le matériel, c'est-à-dire que prenons conscience que dès qu'on se met quelque chose sur le dos en plan, alors matériel, ça fait pas, c'est pas que ce soit mauvais en tant que tel, c'est qu'à un moment donné, il y a eu un choix. Et on peut toujours plus. J'ai une maison de campagne, je peux en avoir 2, j'ai une voiture, je peux en avoir 2. Alors le matériel résout des problèmes, mais il en crée aussi. C'est évident. Donc du coup, c'est important de se dire quel est notre rapport avec les choses. Est-ce que j'accueille une certaine limite? Et on voyait bien dans cet Américain, il y avait le no limit, c'est-à-dire qu'il fallait toujours plus, parce que bon, et je veux dire, plus on est intelligent, bien sûr, plus on voit de choses à faire, et plus de choses intéressantes. Hein, j'aime bien notre boulanger là, à Haute-Marsheim, il n'ouvre pas le dimanche. Et on lui a posé la question, parce qu'il y a une autre boulangerie qui s'est ouverte à un petit village de 1000 habitants, ou 2000, donc il y a une autre boulangerie qui, elle, ouvre le dimanche. Et on lui a posé la question, mais pourquoi vous n'ouvrez pas le dimanche? Mais ben non, parce que les 7 jours de la semaine, 6 jours de la semaine, ben, je travaille, puis ça me suffit pour vivre. Je n'ai pas besoin d'ouvrir le dimanche. Mais vous voyez, à travers ça, la question du tout le dialogue sur le travail le dimanche, qu'est-ce qui est proposé à travers ça? C'est au fond un culte de l'argent. Si on peut servir deux dieux à la fois, on en sert toujours un. Mais lequel sert-on? C'est ce culte de l'argent qui nous parfois nous alors c'est quoi ça? Non, c'est pas le boulanger, je crois que c'est le tracteur. Toute votre progéniture qui est dans le tracteur. Espérons qu'elle ne soit pas dessous, mais voilà. Donc, du coup, avec le frère Jean-Paul. Alors, vous voyez, c'est de dire, est-ce que j'accueille la question du repos? On a vu par rapport au temps, hein, le repos, c'est l'affirmation d'un autre. Le repos, c'est l'affirmation d'un autre. Le repos, c'est l'affirmation de Dieu. C'est que le monde ne fonctionne pas que par mon activité. C'est pas que mon travail qui fait... La terre ne va pas cesser de tourner parce que j'arrête de travailler. Et c'est le repos. Et on voit bien dans ce jour de il y a eu un gros... justement, je parlais avec la députée là, de Mulhouse, parce qu'eux, ils étaient archi-contre, les députés UMP, ils étaient archi-contre le travail le dimanche. Alors du coup, ils ont négocié. Alors du coup, il y a marqué dans la loi « sauf Alsace-Moselle ». Bon, voilà, mais bon. Comme je vous dis, on a mis le pied dans la porte, et puis maintenant, on peut l'ouvrir. Hein. Vous voyez, derrière ça, il y a une manière d'être en société. C'est-à-dire, on donne comme signe à la société, eh bien, c'est l'argent. C'est le travail. Bon, on n'est pas contre le travail, mais il y a une limite au travail. Il y a une limite à l'argent. On peut toujours rajouter un zéro, même si c'est vrai que ces temps-ci, c'est plutôt qu'on enlève le zéro, mais on peut toujours... Vous voyez, il y a la course en avant, on ne s'arrête pas, on peut toujours faire quelque chose d'autre, on peut toujours avoir une autre machine, on peut toujours avoir... on peut toujours accepter une autre charge, un autre travail, je veux dire, dans son travail, d'autres responsabilités. Et tout nous pousse à ça. Tout. Très clairement, tout. Et je ne dis pas que c'est facile, mais à un moment donné, il faut se positionner. Et celui qui se positionne, positionne les autres. Parce que derrière ça, il y a un peu une culpabilisation. Je culpabilise parce que, du coup, vous ne faites pas le maximum. Donc, du coup, vous êtes. Donc, si ça ne marche pas, ce sera bien de votre faute parce que vous n'avez pas fait le maximum. Ça, vous voyez, ça, il faut renoncer à ça. Il faut vraiment renoncer. Il faut renoncer parce que. Justement, dans cet accueil de la limite au plan matériel, c'est tout un, si vous voulez, je ne sais pas comment m'exprimer, mais le lien avec l'autre, le lien avec Dieu, le lien avec l'argent ou les choses matérielles, les richesses, eh bien, on voit bien que c'est quelque chose à évangéliser et que si, dans un de ces aspects-là, il y a un dérèglement, il est probable aussi que dans les autres aspects, il y a un dérèglement. Parce qu'on est une unité, âme et corps. Vous voyez bien, parce que on voit bien le système. Hein, c'est... Du coup, au niveau du travail, par exemple, donc, qui a à voir aussi avec l'argent, avec les richesses, bon, on met de la pression, Et qu'est-ce qu'on propose pour se détendre ? On propose le plaisir. Donc, c'est le stress, on résout le stress par le plaisir. Un plaisir de la nourriture, plaisir de l'alcool, plaisir sexuel. Hein ? On fonctionne. Mais ça, c'est des animaux qui fonctionnent comme ça, je veux dire, qui ont accès à la fois. Bon, mais en nous, on a une intelligence, une volonté, une capacité de choix. Il y a d'autres manières de résoudre le stress que dans le plaisir, que dans le verre de whisky quotidien. Alors, c'est vrai que ça donne du plaisir. Bon, j'aime pas le whisky, mais bon, j'imagine, pour ceux qui aiment. Mais est-ce qu'en amont. Quand on voit, par exemple, qu'avec sa propre sexualité, on a des misères et qu'on n'a pas forcément la mesure ou la maîtrise qu'on souhaiterait avoir. Et puis, dans ce domaine-là, je crois que c'est un rappel à l'humilité constant. Mais il faut toujours se demander, mais parce qu'on est une unité à mes corps, est-ce qu'en amont, dans un autre domaine, on a parlé du travail, du rapport au temps, du rapport à l'argent. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un dérèglement qui, d'une certaine manière, aboutit à ce dérèglement dans la sexualité ? Parce que tout aboutit dans le corps. Tout termine dans le corps. Qu'on le veuille ou non, ben on n'a que ce corps-là pour tout faire. Pour prier, pour aimer, pour haïr, pour travailler, pour se reproduire. Le corps, et c'est très intéressant, hein, Jean-Paul II a fait tout un travail absolument passionnant, hein, sur la théologie du corps. Hein, le corps dit la personne. Et donc, dans notre corps, il y a beaucoup de choses de notre personne qui se traduisent, Hein. Donc, je crois que c'est... Ensuite, le rapport, on disait l'orgueil de la chair. Hein. L'orgueil de la chair, c'est-à-dire l'orgueil lié au plaisir. Alors, les trois grandes formes de plaisir, hein, le plaisir de la boisson, le plaisir de la nourriture, le plaisir de la sexualité, c'est une forme de plaisir. Et heureusement qu'il y a ces plaisirs-là. C'est pas que le fait du plaisir en tant que tel. Parce que s'il n'y avait pas un plaisir à manger, mais tout simplement, on ne mangerait pas. S'il n'y avait pas un plaisir à avoir une relation sexuelle, bah, tout simplement, l'espèce s'éteindrait. Dieu a mis dans notre corps des sources de plaisir. C'est bien Dieu aussi qui les a mises. On n'a pas choisi cette forme-là. Mais à l'intérieur, vous voyez, dans ce rapport au plaisir, donc le plaisir, il n'est pas mauvais. Ce n'est pas une question de mauvais. Il y a toute une, je veux dire, une époque rigoriste, le rigorisme moral du 19e siècle, qui voyait bah, tout ce qui est du corps, c'est mauvais, c'est péché, etc. Non, d'avoir un plaisir en s'unissant dans l'union intime des époux, ben c'est même conseillé. Que vous dites. Mais la question, c'est le dérèglement. C'est pas le plaisir. Qu'on ait du plaisir à prendre une bonne, à goûter un bon vin, qu'on prenne du plaisir à savourer un bon dessert, etc. La question, c'est le no limit. C'est-à-dire qu'il n'y a plus la finalité. Il n'est plus ordonné à la communion. Il n'est plus ordonné à la construction de soi-même. On donne au plaisir l'infini de l'intelligence. C'est-à-dire que toujours plus. C'est comme un cercle vicieux. Et vous voyez, on donne au plaisir, c'est cet infini de l'intelligence qui fait que je ne vais pas pouvoir m'arrêter. Jusqu'au moment où, parfois, problème de santé, non, vous avez trop mangé, non, tac, maintenant, cardiologue, ah oui, alors, il me faut, ou alors vous avez une cirrhose du foie, oui, là, si j'avais su, bon. Donc l'humilité, on voit bien ces trois lieux d'opposition, qui sont au fond des oppositions à Dieu. Même si on y prête garde, parce que, en même temps, il y a des lieux des blessures, je pense, par rapport à la relation, par exemple, aux richesses, des personnes qui ont pu manquer dans leur vie, dans leur famille, et donc du coup, il y a une angoisse liée à l'argent qui fait que, ou alors la recherche de tendresse désordonnée, parce que peut-être au niveau psychologique, il y a une souffrance de ce côté-là. Mais derrière ça, si au fond, qu'est-ce qui viendra apaiser ce désir qui se transmet de façon parfois désordonnée? Eh bien, si ce n'est la rencontre avec le Seigneur. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur n'a de repos tant qu'il ne repose en toi. C'est Dieu lui-même notre repos. Vous voyez, dans toutes ces formes d'orgueil, orgueil de l'esprit, orgueil de la chair, orgueil des richesses, il n'y a pas de repos. Il n'y a pas de repos. On peut toujours faire quelque chose de plus. C'est la course en avant. Il y a quelque chose d'effréné. Et tout nous pousse à ça. Je veux dire, tout nous pousse à ça. Mais ce n'est pas humain. Parce qu'il est humain, c'est forcément limité. Il y a forcément un début et une fin. Ce qui est humain demande de la patience. Ce qui est humain demande de l'amour et donc du coup demande de cheminer avec l'autre. Donc on voit bien que l'humilité, au fond, ça consistera à accueillir le don de Dieu, mais de discerner à l'intérieur même de nos vies ce qui peut s'opposer à Dieu. Et vous avez fait vous-même le rapprochement entre ces trois formes d'orgueil, donc on a parlé des trois tentations, et les trois vœux religieux, de pauvreté, chasteté, obéissance, qui sont les trois conseils évangéliques. C'est assez intéressant de rappeler, c'est pas... Alors les religieux en font un état de vie, et structurent leur vie à travers la pauvreté, la chasteté, l'obéissance. Mais pour tous ceux qui veulent suivre le Christ, il y a une certaine forme de pauvreté, d'un rapport au bien. Il y a une certaine forme de chasteté matrimoniale, d'une maîtrise de soi. Et il y a une certaine forme d'obéissance à la parole de Dieu, d'obéissance à l'Église. Donc, ce sont des conseils évangéliques pour tous ceux qui veulent vivre de l'Évangile. Maintenant, il y a des fausses manières d'être humble. Il y a des fausses humilités. Et ça, j'aime bien le rappeler parce que on pense trop que l'humilité, c'est de dire, au fond, je suis nul, vous voyez, comme une forme de dépréciation de soi-même. Et c'est pas juste. C'est pas juste parce que déjà, le Seigneur nous a gravé dans ses paumes, dans les paumes de ses mains, hein, regarde la merveille que je suis. Je veux dire, vraiment, nous sommes à l'image, à la ressemblance. C'est pas la dépréciation de soi-même qui fera l'humilité. Mais j'aime bien parler de deux choses, de deux aspects, c'est ce qu'on appelle la magnanimité et la pusillanimité. Alors, c'est pas la magnanimité. Alors, qu'est-ce que c'est que la magnanimité ? La magnanimité, c'est le désir de grandes choses, mais de grandes choses pour Dieu, de se laisser enthousiasmer par de grands projets, de se laisser enthousiasmer par ce qui est beau, bon, vrai, d'élever son cœur, d'élever son cœur vers Dieu et d'élever son cœur vers ce que je peux aussi entreprendre pour mes frères et pour Dieu, d'avoir de grands désirs. Alors, ça paraît contradictoire, mais en même temps, on va voir tout de suite la pusillanimité, qu'est-ce que c'est. Le pusillanime, c'est l'inverse. Le pusillanime, c'est au contraire celui qui ne souhaite pas se lancer, s'investir, s'engager, de peur d'être critiqué, contredit, de peur de l'échec. Alors que, et c'est saint Thomas d'Aquin qui fait le lien entre les deux choses, il dit la personne humble est magnanime. Magnanime, ça veut dire la grandeur d'âme. Celui qui ne regarde pas la dépense, celui qui a une grandeur d'amour, celui qui ne voit pas, peut-être qui ne compte pas ses forces, cet égoïsme qui fait qu'on compte nos forces, c'est-à-dire celui qui est dans une attitude de don de lui-même. Celui qui perd sa vie la gagnera. C'est ça, c'est Jésus hein, qui dit ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Cette magnanimité qui fait que on se laisse enthousiasmer par ce qui est plus grand que nous. On laisse son cœur s'agrandir aux dimensions de Dieu, aux dimensions aussi de grands projets. Et c'est là où c'est important de se dire que c'est toute la parabole des talents. Et on voit bien le paradoxe évangélique, on dit à la fois accueillir la limite et à la fois se laisser enthousiasmer par les grandes choses. Vous voyez, c'est au fond, le magnanime, c'est celui qui a un amour fort. Celui qui a une grandeur d'âme. Celui, c'est pas parce que c'est difficile qu'il ne va pas y aller. C'est pas parce qu'il y a des épreuves qu'il va fuir. Il va tenir. Il va être là, aux côtés de l'autre. Et Dieu sait si la vie matrimoniale et familiale demande de la grandeur d'âme. Parce que s'il est un projet qui est grand et qui est beau et qui est vrai, c'est certainement celui du couple et de la famille. Et on voit bien que, et c'est ça l'humilité. L'humilité, c'est en dépit des épreuves, en dépit parfois des déceptions qu'on peut avoir, en dépit des désillusions, en dépit, bon, eh bien je reste et je suis là, aux côtés de l'autre. Ah bon. On cite mon exemple de martyr. Alors, c'est vrai que dès qu'on cite des martyrs, c'est vrai que là, on met la barrière très haute, mais j'aime bien l'exemple du père Kolb. Vous voyez, le père Kolb, qui, vous connaissez certainement son histoire, donc un prêtre polonais, et qui disait, qui est un grand amoureux de la Vierge Marie, et qui a eu, était en camp de concentration. Et à un moment donné, des personnes s'échappent du camp de concentration. Et pour une personne échappée, 10 vont terminer dans le bunker de la mort. Et on aligne tous les prisonniers, etc. On en choisit 10, et lui n'est pas dedans. Alors, là, humainement, parce que le bunker de la mort, c'est mourir de faim et de soif. Humainement, on est plutôt content. Spontanément, c'est passé juste à côté. Et parmi ces 10-là, il y a un père de famille qui supplie l'officier allemand de lui laisser la vie sauve. Je crois qu'il avait été père de 7 enfants ou quelque chose comme ça, un père de famille nombreuse. Et le père Kolb est touché par ça et lui-même s'avance, faire un pas on n'imagine même pas dans cet univers de terreur. Il s'avance, il fait un pas vers l'officier allemand et l'officier allemand lui dit « Qui es-tu ? Hein, je suis... prêtre catholique, que veux-tu ? Eh bien, je veux mourir pour un d'eux. » Et il prend la place du père de famille. Alors, vous voyez, ça, c'est la grandeur d'âme. Alors, bon. C'est peut-être un peu la barre haute. Mais vous voyez, ça, moi, je trouve, à travers les martyrs et les saints, il y a quelque chose aussi que, plus modestement, on peut vivre, mais parce que quoi, il a été toujours habitué au fond, à un amour plus grand, parce qu'il a, il a cru objectivement que le fait de s'offrir à la place de ce père de famille, eh bien, c'était un acte d'amour désintéressé. Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Ben, Jésus, évidemment, qui est humble de cœur, a en même temps une grandeur d'âme. Regarde pas la dépense. Compte pas ses forces. Et c'est un signe d'humilité, ça qu'il faut bien comprendre. C'est que c'est un signe d'humilité, alors qu'on, spontanément, on n'aurait pas forcément mis l'humilité là. Parce que, d'une certaine manière, il y a à un moment donné à accueillir qu'on se lance dans des grandes choses, comme une famille, par exemple, dans de grands projets, dans une vie qui nous... Et on grandit en se donnant à quelque chose ou à quelqu'un de plus grand que nous. Eh bien, quand on se lance là-dedans, dans cette aventure, au fond, bien, forcément, tôt ou tard, on rencontre la croix de Jésus. Tôt ou tard. L'échec, la trahison, la déception, la critique. Il suffit que vous soyez responsable de quelque chose pour forcément être critiqué. Ah oui, mais pourquoi vous... si on ne veut pas s'arrêter à la critique et si on ne veut pas simplement être dans le plaire à l'autre, dans la démagogie, mais il faut bien de la grandeur d'âme. Il en faut bien de la grandeur d'âme. Il faut bien être magnanime. Et c'est le signe d'une humilité. Parce qu'au fond, celui qui entreprend ça n'est pas sous le regard de l'autre. Il est sous le regard de Dieu. Il est sous le regard de Dieu. Et nous sommes ce que nous sommes sous le regard de Dieu, pas sous le regard les uns des autres. Et vous voyez, dans l'humilité, je crois aussi, il y a une étape à choisir, à accomplir, c'est le fait de renoncer à plaire. Ça veut pas dire qu'on ne veut pas faire plaisir à l'autre, mais de renoncer à plaire, parce que le fait de vouloir plaire, c'est qu'on n'existe que dans le regard de l'autre. D'une certaine manière, être tellement extérieur à soi-même, tellement préoccupé de qu'en dira-t-on, de l'image, etc., que ben on s'épuise aussi, on épuise les autres. Alors, de se rappeler que l'humilité, justement, passe par cette magnanimité, par cette grandeur d'âme, par cette, de confiance. La confiance sera toujours le signe de l'humilité. Et on voit bien, on est dans une société avec une mentalité de plus en plus sécuritaire. Tout doit être calculé, maîtrisé, ne rien, risque zéro. Mais risque zéro, c'est pas humain. C'est ça le problème. C'est pas humain, le risque zéro. Il y a toujours un risque. Qui dit humanité dit toujours un risque. Qui dit humanité dit déjà, à un moment donné, il y aura la mort. Mais vous voyez, derrière ça, derrière l'humilité, c'est aussi un accueil au fond de la croix du Seigneur. Est-ce qu'il y a un espace dans ma vie pour aussi accueillir la souffrance? Ou est-ce que je fuis en permanence la souffrance? J'aime bien dans l'encyclique de Benoît XVI sur l'espérance. Il dit... Même si on fait tout pour combattre la souffrance physique, etc., morale, bon et sociale, on ne peut pas l'éviter. Ça fait partie de nos humanités. Et une personne qui chercherait à éviter en permanence la souffrance et qui fuirait ça, ben, terminerait dans une existence vide. D'une certaine manière, l'humilité, c'est accueillir aussi cette part d'impuissance qui est synonyme de notre humanité. Qui dit humanité dit qu'il y a forcément une limite, donc une part d'impuissance. Et donc, quelque chose qui est pénible à porter. Cette humilité face à Dieu, mais aussi cette humilité face au prochain... d'avoir cette humilité face au prochain, je crois que ça se traduit beaucoup dans ce regard de bienveillance. S'il y a un mot qu'on pourrait retenir, c'est bienveillance. Et c'est vrai que c'est très franco-français de voir tout de suite le point noir dans la page blanche. Tout de suite. Il y a des mentalités comme ça, qui ont des gens, tac, tout de suite ils voient ce qui ne colle pas. Et je crois qu'on a à convertir notre regard. Hein, On parlait dans cette conférence avec le DRH là, de Saint-Gobain, de la manière de manager, et du management en général, et de voir qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en souffrance au travail. L'actuelle réalité récente nous le rappelle. Et on voit bien qu'il y a un management par le stress, typique. On voit même, il y a des entreprises qui organisent et le stress et le plaisir. Vous voyez, c'est que, ils organisent le stress et le stress et le stress. Ensuite, si on vous offre un voyage, parce que vous êtes le meilleur vendeur, un voyage sur une île exotique, bien sûr, sans les épouses. Bah, il y en a qui organisent. Faut être attentif à ça. C'est organisé pour. Bah oui, mais on compense le stress par le plaisir. Puis, on disait bien avec ce DRH, au fond, est-ce qu'il n'y a pas une autre forme de management ? De souligner le positif dans l'autre. De reconnaître ce qui en l'autre est bon, est bien, est vrai. Et d'une certaine manière, les drames que l'on a vus ces temps-ci, et ça existe dans plusieurs entreprises, rappellent au fond qu'il y a peut-être à revenir à la bienveillance. L'entreprise, c'est une chose, mais ensuite le monde de la famille, ça en est une autre. Mais comme on peut parfois décourager un enfant en soulignant toujours le négatif, toujours ce qui ne va pas, comment on peut le décourager ? Et ça, je crois que dans notre mentalité française, il faut qu'on. On est très critique, on a un esprit critique. Alors, ça a aussi d'autres avantages, parce que du coup, on a. On a vraiment une mentalité française très particulière. Mais dans tout pays, dans toute mentalité, il y a aussi quelque chose à évangéliser. Alors, par exemple, les Américains, eux, sont beaucoup plus positifs, signe positif. Alors, donc, ils encouragent leur enfant, c'est génial ce que tu fais. Ou dans ce serait aux États-Unis, par exemple, les Noirs américains, ils encouragent le prédicateur. Oui, c'est super ce que tu nous dis, alléluia. Il peut pas en placer une, du reste. Ce qui n'est pas très, très commode. Mais c'était Jean Vanier qui est le fondateur de l'Arche qui disait la différence. En France, on écoute bien le prédicateur, on pense beaucoup, bon, etc. Aux États-Unis, ils expriment beaucoup, puis ils encouragent. Bon, aussi, chaque pays aussi a besoin d'être évangélisé, parce que bon, ensuite, c'est pas non plus le plus ultra. Mais la bienveillance, vous voyez, la bienveillance comme signe d'humilité. J'aime bien, par exemple, Jean-Paul II, quand il parle de la spiritualité de communion, dans la lettre en 2001, bon, ça date un petit peu, mais il dit, ben voilà, notre siècle a besoin de spiritualité de communion, et ce sera vers ça qu'on s'orientera. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire, la spiritualité de communion ? C'est d'abord de voir le positif dans l'autre. C'est d'abord de voir le positif dans l'autre. Et c'est vrai dans la vie de couple, c'est vrai dans la vie de famille avec les enfants, dans la vie de l'église, dans la vie d'une communauté. Mais on voit des personnes aussi qui ont été cassées, vous voyez, par une éducation perfectionniste où c'était jamais assez bien. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas entraîner l'autre à donner son maximum, mais vous voyez, s'il n'y a pas en retour un soutien, une confiance, un remerciement, une approbation, une reconnaissance, c'est pas. On décourage, quoi. À quoi bon ? Ou alors on devient un anxieux. Toujours à la. Les gens qui sont toujours en recherche de reconnaissance. Alors, voilà, un peu de vous dire des choses sur l'humilité, puis j'aime bien cette prière de saint Thomas d'Aquin, parce que j'avais prévu vous dire un peu d'autres choses, mais on aura, et puis peut-être laisser la place à quelques questions. Cette prière de saint Thomas à propos du désir, justement, parce qu'on voit le lien avec le Jésus vient éveiller le désir. Il est maître du désir, mais il vient l'éveiller le désir. Notre religion, c'est une religion du désir. Mais c'est une religion aussi de la béatitude des pauvres, et donc de l'humilité. On voit Jésus avec Zachée qui réveille son cœur, avec Marie-Madeleine, qui vient évidemment, c'est une femme de désir, ça c'est clair, Marie-Madeleine, mais en même temps qui vient l'apaiser dans son désir, avec la femme pécheresse, dans l'épisode où Jésus est chez Simon le pharisien, et la femme pécheresse baigne les pieds de Jésus des larmes et puis essuie avec ses cheveux. Elle vient, les cheveux chez la femme, c'est vrai que c'est un lieu aussi de séduction. Et de fait, c'est Jésus, il faut qu'il vienne redonner à cette femme sa propre dignité, réorienter son désir, parce qu'elle avait un grand désir d'aimer. Il lui sera beaucoup pardonné parce qu'elle a beaucoup aimé. C'est ce qu'est la réponse qu'il donna à Simon le pharisien. Et donc, accordez-moi, dit Thomas d'Aquin, accordez-moi, Dieu miséricordieux, de désirer ardemment ce qui vous plaît, de le rechercher prudemment, de le reconnaître véritablement et de l'accomplir à la louange et à la gloire de votre nom. Mettez de l'ordre dans ma vie. Accordez-moi de savoir ce que vous voulez, ce que je fasse. Donnez-moi de l'accomplir comme il faut. Accordez-moi, Seigneur mon Dieu, une intelligence qui vous connaisse, un empressement qui vous cherche, une sagesse qui vous trouve, une vie qui vous plaise, une persévérance qui vous attende avec confiance et une confiance qui vous embrasse à la fin. Ô très clément, rappelez-moi quand je fuis, attirez-moi quand je résiste, relevez-moi quand je tombe, soutenez-moi quand je marche. Ne m'oubliez pas quand je vous oublie, ne m'abandonnez pas quand je vous abandonne. Ne me méprisez pas quand je pêche. Donnez-moi de partager volontiers le bien que j'ai avec celui qui en manque, le bien que je n'ai pas de le demander humblement à qui en est pourvu, le mal que j'ai fait de l'avouer loyalement, le mal que je souffre de le supporter avec égalité d'âme, le bien du prochain de le regarder sans envie, vos bienfaits de vous en rendre toujours grâce. Moi, j'aime bien cette prière de Thomas d'Aquin qui vraiment s'adresse au Seigneur, en même temps confie son désir, en même temps de dire, dans ce désir-là, il y a eu parfois où je me suis égaré. On a vu hier qu'à la source de désir, il y a parfois, et de péché, il y a souvent un désir d'être heureux. On recherche toujours le bonheur, mais en même temps, cette confiance dans la miséricorde et dans l'amour et la patience de Dieu. Alors, on a toute petite minute, Père X aussi, cinq minutes. Est-ce que vous avez peut-être des questions? Vous pouvez penser, je voulais peut-être vous présenter quelques livres là qu'on a à la librairie qui peuvent vous aider pour ce temps de Noël. Il y a la pratique de l'humilité. Ce n'est pas des livres que j'ai lus, donc je ne peux pas trop vous dire ce qu'il y a à l'intérieur. Je vois les titres, c'est tout. Des textes sur Noël aussi, qui peuvent être intéressants. Mais alors ça, c'est plus trapu, c'est méditation sur les oraisons de temps de Noël. Sur le temps de Noël, au niveau liturgique, comment est-ce qu'il est construit? Donc c'est plutôt de la liturgie, c'est un peu, si vous voulez travailler un peu la chose. Le désir amoureux, le temps de l'Avent et le temps de Noël, par Louis Valentin. Et les origines de Noël, d'où est-ce que ça vient, Noël? Alors, il y a plusieurs choses dites comme ça. Et puis avec les enfants, j'ai pensé peut-être des choses qui peuvent être intéressantes sur Marie de Nazareth et les DVD, ou la nativité, ou des choses sur Noël. Ben, vous irez voir. Donc prenez ce temps aussi qui est un temps en famille pour peut-être approfondir votre foi, retravailler. C'est un temps, je vais dire Noël, c'est un temps, une fête qui est douce. Qu'on dit douce nuit, il y a quelque chose de doux dans Noël. Sachons ne pas le surcharger, sachons ne pas justement vouloir remplir et faire des tas de choses, sachons aussi donner le temps à la gratuité. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions qui vous viennent parce que ça soulève beaucoup de questions, ce qu'on a dit ce matin et puis hier aussi. Oui. Oui. Alors, savoir accueillir, c'est savoir accueillir la pénibilité. Savoir accueillir la souffrance, la frustration. C'est une forme de souffrance. Je veux dire que tous mes désirs, je ne peux pas les réaliser. Il y a une forme de souffrance. Ensuite, savoir accueillir parfois la souffrance physique qui arrive avec l'âge, la maladie. Bon, on ne la recherche pas, ça on est d'accord. Mais savoir accueillir ce qui nous rappelle au fond notre limite. Et le pape dit, quand je sais accueillir ça, eh bien je grandis en humanité. Alors qu'il peut y avoir une autre manière de faire, c'est-à-dire, je fuis toujours ce qui me rappelle ma limite. Je fuis toujours ce qui est pénible, ce culte du confort. Alors, on est en plein dedans, on sait bien, on le sait, mais bon. C'est, vous voyez, mais comme un peu maladif, c'est-à-dire que dès qu'il y a une limite, et parfois on ne s'en rend même pas compte, c'est tellement des manières d'être, des formes de penser, que c'est tellement des automatismes. Est-ce que je sais accueillir justement le... j'aime bien le fondateur, il disait, je ne suis heureux que quand il me manque quelque chose. Est-ce que dès que j'ai besoin de quelque chose, je l'achète? Est-ce que je suis accro de la dernière nouveauté d'ordinateur, de téléphone, etc. Vous voyez, est-ce que... Bon, là, il y a dégradation dans la souffrance. Il y a la grande souffrance, les grandes maladies. Bon, c'est aussi ça, mais de façon peut-être plus quotidienne, parce qu'on n'est pas tous touchés par des grandes souffrances. Bon, peut-être oui, mais... est-ce qu'on sait accueillir le manque? Je pense que c'est plutôt ça. Le manque est toujours une souffrance, parce que c'est vrai que... Mais le manque, en même temps, qui creuse l'espace pour Dieu. Et qui creuse... Parce que si on est des repus, mais il n'y a plus de... Par définition, il n'y a plus de place pour Dieu, et il n'y a plus de place pour l'autre. Il n'y a plus de place pour l'autre. Parce que je suis repus, je m'auto-satisfais, je suis dans une... Bon. Je ne sais pas si c'est à peu près clair... Peut-être une ou deux questions encore.
J'ai une question concernant le travail de dimanche.
Oui.
Donc, quand vous avez soigné, il vous a dit que les 6 jours lui suffisent. Et si les 6 jours ne suffisent pas pour vivre?
Si les 6 jours ne lui suffisent pas. Alors, ça peut ne pas suffire pour plusieurs choses. Ça peut ne pas suffire parce qu'on s'est mis. Alors, il faut voir pourquoi. Alors, premièrement, parce que soit il faut changer de travail, bon. Soit on s'est mis dans une logique telle de train de vie qui fait que ça ne suffit pas. Ben, c'est sûr, parce que s'il faut entretenir, si on a un gros train de vie, ah ben oui, 6 jours, ça ne suffit pas. Oui, derrière ça, il y a tout. Ou alors vraiment, c'est un travail qui ne nous suffit pas pour vivre, c'est-à-dire le minimum vital. Mais si on a des prétentions de train de vie telles, ben oui, il faut... Mais est-ce qu'en amont, il ne faut pas réfléchir à se dire, est-ce que le train de vie, il n'y a pas à le réduire, et on n'est pas obligé de tous partir à la montagne, tous partir à la mer, tous faire... il y a peut-être aussi une forme de... Et les enfants, ce n'est pas forcément ça qu'ils attendent non plus. Qu'est-ce qu'ils attendent? C'est surtout un lien... C'est certain de l'amour avec les parents, je veux dire, c'est le temps avec les parents. Et on peut, de façon très plus modeste, plus... Maintenant, si ça ne suffit pas pour le minimum, je veux dire, bon, pour payer ses factures d'électricité, de téléphone, pour mettre de l'essence dans la voiture, si vraiment ça ne suffit pas, ben là, on est en dessous du seuil de pauvreté. Alors là, bon, là il faut changer de travail, je veux dire, il faut voir autre chose. Là, on est dans la catégorie des personnes pauvres. C'est vrai que c'est une vraie question. Parfois, on est dans une logique de travail qui ne suffit plus pour vivre. Alors, mais là, là, il faut voir ailleurs. Mais parfois, c'est peut-être pas tellement cette question du seuil de pauvreté, c'est plutôt de se dire, est-ce qu'on ne s'est pas mis dans des logiques? Parfois, à fond de train, on est rentré là-dedans, tête baissée, qui fait qu'on est ensuite dans un cercle vicieux, dans une course en avant. Et c'est vrai qu'on n'a plus assez parce qu'on a des crédits. Parce qu'il y a des... vous voyez, le crédit appelle le crédit. Le crédit appelle le crédit et qu'on s'est mis des choses sur le dos tellement lourdes. Alors, si on finance par crédit la vie quotidienne, alors là, il y a un problème, ça c'est vrai. Mais en général, ce n'est pas tellement ça. C'est que la voiture, c'est la maison de parfum de campagne, ou alors l'entreprise, si on est propriétaire de son entreprise. Bon, il y a un discernement à faire avant de s'engager. Il y a un discernement à faire. À quoi ça va ? Le matériel n'est jamais que le matériel. Le matériel rejaillit pour tout, et sur tout, et sur tous. Ça a des conséquences partout. Vous voyez, par rapport à une communauté religieuse, on dit oui, mais vous êtes religieuse. Vous imaginez une maison comme celle-ci, une modeste demeure, ce que ça veut dire en termes d'entretien. Non, mais c'est intéressant de se dire, bah, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a des choix, et les choix matériels rejaillissent sur la communauté. C'est pas que la communauté n'aura pas assez pour vivre, c'est pas tellement ça, mais est-ce qu'on va pas mettre sur la communauté ? Bon, je vous l'amène par rapport à l'accueil. On pourrait éventuellement faire d'autres travaux, d'autres choses, etc. Bon, agrandir notre capacité d'accueil. Oui, mais ensuite, agrandir la capacité d'accueil. Oui, mais vous vous rendez compte, il faut bien que l'argent rentre pour payer. Chaque mois, on doit payer 8000 euros de charges sociales pour les frères, c'est-à-dire de retraite, de maladie, etc. Premier, bon. On dit, mais vous ne vous rendez pas compte, il faut bien payer les trucs. Mais vous voyez, ça, ensuite, tôt ou tard, ça va faire un stress sur la communauté. Et donc, on suit des difficultés de relations entre les frères, alors qu'on aurait peut-être, et alors qu'il y avait peut-être un plan B. Et on pense pas toujours au plan B. On voit qu'une seule solution. Mais il n'y avait que ça, je n'avais pas le choix. Si, il y a le choix. Et c'est là où il faut remonter et de dire... Et il faut être très attentif à ces questions matérielles. Parce que ça renvoie... Je me suis toujours posé la question, pourquoi est-ce que Jésus a dit, entre Dieu et l'argent, il faut choisir ? Pourquoi il n'a pas parlé de l'orgueil de l'esprit ? Pourquoi il n'a pas parlé de l'orgueil de la chair ? Pourquoi il a, d'une certaine manière, et c'est vrai que parfois, même à l'excès, les catholiques surtout, les protestants ont une autre tradition, mais les catholiques, on a toujours été un peu mal à l'aise avec l'argent, un peu culpabilisés. Parce qu'au fond, j'ai réfléchi, au fond, l'argent permet les deux autres formes d'orgueil. Si vous avez de l'argent, ben vous avez le pouvoir. Et donc l'orgueil de l'esprit et le fait de conduire les autres là où vous voulez. Hein. Et puis tout ce qui est les dérapages en termes de plaisir, ça demande de l'argent. Tôt ou tard, ça se paye. Ça, les sites porno ont très bien compris ça, tous les gens qui ont des vendeurs de drogue ont très bien compris ça, etc. Ça se paye. Donc, il faut voir que dans l'argent, il y a un enjeu, et dans le matériel en général, et ça rejaillit jusqu'à notre relation à Dieu, parce qu'on n'a plus le temps, donc on n'a plus le temps pour Dieu. Mais, alors si ces 6 jours, ça ne suffit pas, il faut voir de façon concrète pourquoi, est-ce qu'il n'y a pas eu des choix, est-ce qu'il n'y a pas eu des... Est-ce qu'il n'y a pas d'autre choix à faire ? Est-ce qu'il faut être peut-être plus modeste dans le train de vie ? Est-ce que... Bon, voilà, je pense que... Mais derrière ça, c'est trop facile de dire, bah oui, mais c'est comme ça et c'est pas autrement, puis on n'a pas le choix, puis on pense au fond, on est dans une machine qui nous broie et qu'au fond, on n'a pas trop le choix que de faire des crédits, puis de courir dans une course en avant. À un moment donné, il y a eu un espace de liberté. À un moment donné, il faut le chercher cet espace. Où est-ce qu'à un moment donné, on a eu cette possibilité-là de dire oui ou non ?